Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le quart monde, une expression dont on entend parfois parler, une manière usuelle de parler de ceux qui vivent dans la misère chez nous en France. Mais qui sont ces personnes du quart monde? Que vivent-elles, notamment à Toulouse et dans notre région? Quel est leur quotidien? Quelles sont leurs préoccupations? Et surtout, quel est leur rapport à Dieu? À leur côté, des hommes et des femmes ont choisi de passer leur vie à leur côté. Des hommes comme Pierre Davienne, cofondateur du SAPEL, communauté de vie chrétienne, avec des personnes du quart monde. Voilà, ce matin, pour cette émission Vivante Église, je tape dans mon micro, ça c'est pas bon du tout, je reçois cette émission, donc le quart monde et la parole de Dieu, je reçois ce matin Sébastien Combre, donc, qui est délégué diocésain pour la diaconie pour le diocèse de Toulouse et volontaire permanent à la Bonne Nouvelle, il nous expliquera un petit peu ce que c'est. Bonjour Sébastien, n'hésitez pas.
Bonjour.
À commencer. Et Pierre Davienne, vous êtes diacre et membre du SAPEL, communauté chrétienne de vie, enfin communauté chrétienne, pardon, avec des personnes du quart monde. Bonjour.
Bonjour.
Et donc, de passage à Toulouse pour une conférence ce soir. Peut-être je vais vous laisser...
Pour une session de récitatif biblique, de gestuation, de rythmo-catéchèse, je ne sais pas comment on l'appelle, qui commence ce soir et qui termine dimanche.
Voilà, on en parlera un petit peu plus pendant l'émission. Merci Sébastien. Alors avec vous, dans cette première partie d'émission... on s'y essaye le vendredi, alors peut-être que les auditeurs s'en sont pas rendus compte, mais voilà, c'est un peu les secrets de cuisine, le vendredi, à aller ce qu'on appelle aux périphéries, puisque le pape François utilise cette expression. Et aujourd'hui, pour commencer, j'aimerais aller avec vous un tout petit peu dans ce qui est votre réalité de vie à l'un et à l'autre, dans le quart monde, parce que pour beaucoup, on voit ça à la télé, on a entendu... ce nom, mais peu de personnes en fait connaissent des personnes du quart monde ou vivent avec ces personnes du quart monde. Alors je vais commencer avec vous. Vous, c'est à Lyon, qui est la communauté du SAPEL. Je ne sais pas, le quart monde, pouvez-nous décrire à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que vivent ces gens? Ou est-ce que vous avez des exemples de familles, de personnes que vous connaissez?
En fait, ce sont des familles qui cumulent les difficultés. Vous voyez, souvent, on essaye de résoudre la misère, croit-on, En répondant à un aspect. Et ce qui caractérise vraiment les familles très très enfoncées, c'est que tous les aspects de la vie sont liés et arrivent à l'exclusion de ces familles. Par exemple, souvent ils habitent dans des habitats délabrés, mais ça veut dire que parce qu'il n'y a pas d'argent, et il n'y a pas d'argent parce que souvent il y a du chômage et pas de travail. Pas de travail parce qu'il n'y a pas eu de formation professionnelle, parce qu'à l'école, ça a été beaucoup l'échec. Et pourquoi l'échec? Parce que les logements étaient insalubres et que la santé était vraiment déficiente, quoi. Vous voyez? Et donc, on est dans des cercles vicieux de la misère qui fait qu'on a un mal fou à s'en sortir. Et ce n'est pas en répondant à un seul aspect qu'on peut permettre à toute une population, à ces familles, de grandir ensemble et d'avoir une place dans la société. Quoi.
Alors, donc vous vivez ou vous avez vécu au Minguette, c'est ça, à
Voilà,
Lyon
c'est ça, oui.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire, je ne sais pas, des personnes du quart monde, il y en a beaucoup à Lyon, il y en a au Minguette, je ne sais pas, il y en a... Enfin, c'est important, parce que c'est vrai que c'est souvent... tout à chacun ne croise pas ces personnes, on a l'impression que c'est parfois caché, c'est comme misère.
Alors, en fait, c'est très caché. On a plutôt tendance actuellement à voir des personnes qui sont déboutées, qui sont dans la rue, des migrants. Et puis, régulièrement, on nous annonce qu'il y a des nouveaux pauvres. Et c'est vrai que globalement, la pauvreté a augmenté. Le score catholique, on a beaucoup parlé. La pauvreté a augmenté et il y a de plus en plus de gens qui avaient des capacités à travailler et à subvenir à leurs besoins qui tombent dans la précarité et de grandes précarités.
Sébastien Combe, vous connaissez aussi les personnes du quart monde à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous dire à Toulouse et en Midi-Pyrénées ou Occitanie, en fait, je sais pas, ceux que vous croisez, c'est des gens qui... C'est des personnes du quart monde, c'est quoi? C'est souvent des gens qui sont en banlieue ou qui vivent à la campagne ou... Où est-ce qu'on trouve ces personnes du quart monde, en fait?
Comme disait Pierre, ils sont cachés et j'ai l'impression qu'ils sont cachés un peu partout. Les gens qu'on rassemble nous sur Toulouse, on en a qui sont dans les grands ensembles, dans les banlieues. On en a rarement en centre-ville parce que c'est souvent Surtout à Toulouse, le logement est très cher, mais on en a aussi qui sont en campagne et en campagne très, très profonde aussi, ce qui est aussi une difficulté. Il me semble que ce qui caractérise tout ce monde, c'est aussi la honte. C'est-à-dire que toutes ces précarités qui s'accumulent provoquent chez les gens un phénomène de honte qui fait qu'ils s'enferment encore plus sur eux-mêmes et qui n'osent pas dire ce qu'ils vivent. C'est aussi ça qui fait qu'on a du mal à les rencontrer, comme vous disiez. Alors que parfois, on les rencontre et c'est nos voisins de palier, c'est la personne qui habite la maison deux, trois endroits plus loin. Et la honte fait qu'on a du mal à les détecter, d'où l'importance de rassembler. Parce que dans le rassemblement, les gens ils vont se dire « bah tiens, je ne suis pas seul à vivre ce que je vis ». Et c'est le premier pas pour commencer à s'en sortir.
Moi j'avais une autre question, c'est que souvent on parle de la différence entre la misère et la pauvreté. Alors ça fait peut-être un peu de l'exégèse malvenue de dire ça, mais on dit souvent que là c'est vraiment la misère. Ça veut dire quoi en fait la misère quand vous... c'est quoi ? C'est pas juste qu'on a du mal à subvenir à ses besoins, c'est qu'on manque cruellement de tout, et si oui en fait de quoi ? Parce qu'on a du mal à imaginer en France qu'on puisse manquer de vêtements ou de quoi se nourrir ou...
Je crois que la différence, c'est que la pauvreté, ça peut avoir un côté tout à fait honorable et positif, surtout dans la foi chrétienne. C'est vraiment une béatitude. Alors que la misère, c'est quelque chose qui casse et qu'il faut absolument détruire. Et la misère, c'est quelque chose qui empêche l'identité et qui empêche l'histoire. Hein, et qui oblige les gens à vivre, même pas dans le présent, mais dans l'immédiateté et dans l'urgence. On court après les urgences. Et donc ça ne constitue pas une identité et donc une parole dans notre société.
Est-ce que vous pourriez prendre un exemple d'une famille que vous connaissez pour illustrer cette situation d'urgence un peu permanente ?
Eh bien, il y a des familles où il faut un courage extraordinaire à la maman pour se lever, pour préparer les enfants parce qu'il n'y a pas de quoi manger le matin. Et parce que les enfants sont moqués à l'école, ils n'ont pas trop envie d'y aller. Et l'habitat dans lequel ils sont, il est déjà stigmatisé. Vous voyez, c'est tout cet enchaînement qui fait que la misère n'a rien d'honorable, mais qu'elle défigure l'être humain et la famille. Et on peut dire, ce qu'on constate, c'est une des choses les plus importantes qui casse les personnes et les familles, ce sont les placements d'enfants. Pratiquement, toutes les personnes qu'on a rencontrées, un jour ou l'autre, ont été séparées, soit par force, par la justice, même par la police, soit par consentement parce que la vie était devenue impossible. Et c'est difficile de grandir, de trouver son identité, quand on est placé et donc que nos parents, quelque part, ont été mauvais, hein, ont été reconnus comme incapables de vous élever. Ça, c'est ça la misère, en fait. Hein. Comme disait Sébastien, c'est la honte et c'est aussi l'ignorance. Il y a peu de mots, on ne peut pas avoir droit au chapitre parce qu'on n'a pas les moyens affectifs, financiers, intellectuels d'avoir une parole qui soit digne. Quoi.
Alors, il y a un homme qui a choisi de se tenir avant vous auprès de toutes ces personnes, c'est donc le père Joseph Wresinski. Il ne s'agit pas de refaire toute l'histoire de cet homme, mais en tout cas de montrer dans quelle filiation vous vous inscrivez, et qui, entre autres, fort d'une expérience personnelle aussi importante hein, de pauvreté, donc un jour a décidé de vivre à Noisy-le-Grand, c'était après-guerre, hein, dans un camp où il y avait 100 000 personnes. Hier, je revoyais des images, c'était impressionnant. Et je crois même qu'il a une phrase, enfin Sébastien peut-être vous m'aiderez à retrouver, mais qu'il a dit, le jour où il est allé là-bas, il a choisi le camp des pauvres, c'est ça, où il a choisi de... Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quelle est cette figure qui vous inspire, qui inspire donc Bonne Nouvelle, qui inspire le Sapel et puis d'autres?
Alors le père Joseph, il a été... lui-même a grandi à Angers dans une situation de précarité très grande. Et quand c'est par la JOC qu'il a pu devenir ensuite prêtre. Et quand il a rencontré, quand il est allé au camp de Noisy-le-Grand, parce que ça s'appelait comme ça, c'est-à-dire qu'il a renoué avec son propre passé. Et il s'est dit, c'est pas possible que toute cette population-là reste comme dans les camps qu'on avait connus sous le système hitlérien, quoi. Je dis ça parce que c'est Geneviève Antonius de Gaulle qui, en voyant ce camp, s'est dit « Mais comment c'est possible qu'une démocratie reproduise ce qu'elle-même avait vécu en Allemagne, quoi, en déportation ?» Alors, le père Joseph, en voyant toutes ces familles rassemblées dans des conditions assez terribles, en fait, a eu plusieurs intuitions qui nous nourrissent encore. La première, c'est qu'il ne s'agit pas de cas sociaux qui tomberaient dans la misère par hasard, mais il s'agit de populations, de familles qui, sur plusieurs générations, en fait, sont mis en marge. Voilà, ça c'est la première chose. Hein. Alors lui, il parlait de peuple, de peuple des pauvres. Et quand on dit, c'est très très important de rassembler les personnes pour qu'elles puissent partager leur expérience, pour ensuite se renforcer et avoir droit au chapitre et avoir une parole publique. La deuxième chose, c'est que le père Joseph, il a changé le regard des pauvres. Avant, c'était plutôt, ils étaient plutôt l'objet de notre assistance. Voilà, on était bien, la société était bien, et il y avait comme ça des gens qui tombaient dans la misère comme ça.
Donc notre regard sur les pauvres.
Voilà, c'est ça. Oui. Et il a fait passer d'objets de bienfaisance, il les a fait passer à sujet d'un rassemblement universel. Ça veut dire que...
Ça veut dire quoi, sujet d'un rassemblement
universel? Alors, c'est une grande phrase. Hein,
oui, voilà. C'est pour ça que
je l'ai dit, pour que ça reste. Ça veut dire que les personnes qui sont en état sans arrêt d'être détruites, hein, de disparaître de la société, de mourir concrètement, hein, de misère, d'alcoolisme, de solitude, en réalité, ce sont eux qui sont capables de redire ce que c'est un être humain et donc de rassembler tous les hommes sur une identité où on laisse personne de côté. Vous voyez, on peut pas accepter...
Pas tout à fait encore repréciser, c'est-à-dire en quoi ces personnes deviennent tout d'un coup les sujets d'un rassemblement.
Mais parce que c'est quand on est dans la nuit qu'on peut percevoir que la lumière, elle est importante. C'est quand on n'a pas accès aux soins qu'on peut dire au système de santé, ben voilà ce qu'il faut pour que tout le monde ait droit aux soins. Quand on est sorti et exclu de l'école, ce sont ces enfants et ces familles-là qui peuvent dire, voilà l'école qui pourrait permettre que tout le monde apprenne. Vous voyez, c'est ces personnes qui sont en train de disparaître, qui sont en réalité au cœur de l'humanité, qui peuvent nous dire ce que c'est un être humain et ce que c'est un fils de Dieu.
Voilà, enfin, on imagine que c'est un combat, c'est-à-dire que c'est pas facile à comprendre immédiatement, probablement oui. Qu'il faut en faire l'expérience, comme vous le faites aussi.
Non, mais tout à fait.
Et donc, vous avez cofondé donc une, je sais pas comment on appelle ça, une communauté chrétienne, ouais, oui. Une communauté, donc qui s'appelle le Sappel.
Oui.
Donc, il y a plusieurs communautés de gens qui, dans la spiritualité donc du père Joseph Wredinski, ont choisi de vivre en fait. C'est-à-dire, vous avez décidé en fait de tout lâcher pour vivre. Comment dire, au milieu des personnes du quart-monde, c'est ça ?
Non, mais tout à fait, oui.
Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire à gros traits ce que c'est que le Sappel ? Parce que parfois Sébastien invite certains de ses compères, mais comme c'est une fois tous les 6 mois et que tout le monde n'écoute pas tous les jours Vivante Église...
Voilà, le Sappel, en fait, c'est une communauté qui rencontre les familles du quart-monde sur le plan de la foi. Et pour leur permettre, d'expérimenter que Dieu est là, quoi qu'il arrive... Parce que en Christ, Dieu s'est fait l'un d'eux, voilà, pour pouvoir rejoindre toute l'humanité. Et ça, c'est très important de dire ça. Et alors, chacun d'entre nous dans la communauté, on se déplace et on visite les familles. Et c'est très important de ne pas faire masse, mais d'avoir une relation personnelle avec des familles. Et des fois, ça dure des mois et des années avant que ces familles puissent rejoindre. Et ça, c'est la deuxième étape. C'est très important pour nous de pouvoir rassembler les familles pour qu'elles puissent se dire ce qu'elles ont vécu, comment Dieu était présent et quelle identité elles peuvent avoir ensemble. Parce qu'il y a des choses que la société, que nos paroisses, que l'Église ne peut pas comprendre tant que les gens ne le disent pas eux-mêmes. Par exemple, on réfléchissait sur la multiplication des pains, avec un groupe de personnes en précarité, et tout à coup, je leur dis, mais est-ce qu'un jour vous avez eu faim ? Et tout le monde avait eu faim. Et tout le monde s'est mis à raconter comment ils avaient mangé pendant des semaines et des mois dans les poubelles. Vous voyez ? Et ça, le commentaire qu'ils vont faire sur la multiplication des pains, ou sur la faim de Dieu, ou sur la faim humaine, il n'y a qu'eux qui peuvent le dire. Et donc c'est important pour nous, dans un deuxième temps, de rassembler ces familles-là pour pouvoir se former à la parole, trouver une identité, et ensuite rejoindre des communautés chrétiennes et témoigner de leur foi.
Sébastien, est-ce que tu voulais dire un mot de Bonne Nouvelle aussi ? C'est un peu le même esprit, hein. Bonne Nouvelle, c'est,
ah oui, tout
c'est
à
la
fait.
Même famille.
Oui, oui, c'est la même famille, et effectivement, c'est la même dynamique, rencontrer individuellement pour rassembler, pour leur permettre d'être des témoins et pour leur permettre de transformer, pour nous permettre ensemble de transformer le monde et l'Église. Cette conviction forte que vient d'exprimer Pierre, que ben c'est ceux qui ont été le plus humiliés qui peuvent nous parler du pardon, c'est ceux qui ont été le plus dans l'obscurité, dans les ténèbres, qui peuvent nous parler de la lumière, et que finalement ce sont nos maîtres. Le père Joseph disait, ce sont nos maîtres à penser, quoi. La 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 la.
Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous l'a.
Candela.
Ce matin, donc, une émission Le Quart Monde et la Parole de Dieu avec Pierre Davienne, qui est diacre et membre du SAPEL, Communauté chrétienne de vie avec des personnes du Quart Monde, et Sébastien Combre, délégué diocésain pour la diaconie pour le diocèse de Toulouse. Voilà, la diaconie, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est, comment vous résumeriez, Sébastien, c'est quoi? C'est le service de la charité du diocèse, c'est ça, ou c'est...
C'est construire une église pour tous, en oubliant personne, et pour oublier personne, vaut mieux commencer par les plus pauvres.
Voilà, très bien, et qui est donc volontaire aussi, donc, de bonnes nouvelles. Cette émission, donc, qui est aussi faite pour dire que ce soir, donc, à partir de 18h, à la salle paroissiale du Saint-Esprit à Toulouse, commencera donc une initiation au récitatif biblique. Alors justement, on va en parler, puisque vous avez fondé, donc, ou cofondé, en 1989, donc le SAPEL, mais un peu plus tard, enfin oui, un peu plus tard, en 2005, si je ne me trompe pas, vous avez fondé une autre, enfin une association cette fois, qui s'appelle Paroles et Gestes, pour travailler à la vulgarisation de ces récitatifs bibliques. Donc je vais résumer, et puis après vous allez nous expliquer plus avant ce que c'est. Les récitatifs bibliques, ça a d'autres noms, rythmo-catéchèse, gestuation, enfin bon, vous me direz ce qu'il faut choisir comme nom. C'est une manière en tout cas particulière d'essayer d'entrer peut-être plus profondément dans la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où ça vient et en quoi ça consiste, pour commencer, Pierre Davienne?
Alors, la gestuation, ça vient de Marcel Jousse. Donc c'est un jésuite qui est mort en 1961, qui était anthropologue. Et toute sa vie, il a été obsédé par la question de savoir qu'est-ce que c'était la parole. Et il a conclu, d'une manière anthropologique, que la parole, c'était en réalité un geste qui était concentré dans les cordes vocales et dans la gorge, mais qu'en réalité, la parole, c'est une proposition faite aux autres, et donc c'est un geste. Et que la parole, c'est pas une suite de sons, comme ça, articulés seulement, mais qu'une parole authentique, c'est une action et c'est un geste. Voilà. Alors, il a, pour prouver un peu tout cela, il a pris comme exemple Rabbi Yeshua, Jésus, en travaillant beaucoup sur les évangiles et sur la Bible, pour retrouver les structures orales de cette parole qui venait de Dieu. Et alors, à parole et geste...
Ça veut dire quoi, les structures orales?
Alors... en fait, la parole, elle est toujours organisée en rythme et en mélodie. Donc, nous apprenons, nous mémorisons la parole de Dieu avec un balancement, parce que c'est toujours une aventure et c'est toujours une marche que de réciter la parole de Dieu. Il y a un balancement, il y a une mélodie qui soutient le texte. Hein, ça veut dire que quand il y a des formules textuelles, eh bien, on a une formule musicale qui est la même pour pouvoir aider à la mémorisation. Et puis, en plus donc, du balancement du rythme et de ces formules musicales, il y a tout un travail sur le texte pour voir comment la parole de Dieu, les évangiles et la Bible fonctionnent dans une oralité, ça veut dire par petites cellules de sens et de rythme. Et dessus, nous posons des gestes. Et donc des gestes...
Alors, vous allez nous donner des exemples, peut-être sur cet aspect oral. C'est-à-dire que les écritures elles-mêmes, c'est une manière aussi de redécouvrir qu'il y a, comment dire, il y a une grande part de tradition orale dans les écritures.
Voilà. Alors, tout le monde convient pour les évangiles, entre la proclamation de Jésus, que Jésus a faite,
et... Jésus n'a pas, ne serait-ce que lui, il n'a pas commencé par écrire et à mettre sous les portes des flyers, comme on dit.
Tout à fait. Il a parlé parce que c'était pour lui et à son époque le meilleur moyen de transmission. Donc les rabbis parlaient, et ce qui était écrit, et ce qui était oral. Et il y avait interdiction de mettre par écrit les enseignements oraux. Mais devant les martyrs des premiers chrétiens, on a Eusèbe de Césarée, par exemple, qui raconte que Marc a demandé à Saint Pierre, s'il pouvait mettre par écrit son enseignement. Et c'est très intéressant, Zeb note, et Pierre n'a pas été contre. Ça veut dire qu'il n'était pas pour. Mais devant la disparition des témoins, eh bien, il y a eu une mise par écrit qui était une vraie transgression. Et pour la tradition juive, ça a été la même chose. Après après la chute de Jérusalem, il y a... Les pharisiens se sont retrouvés à Yavne et ils ont mis par écrit des enseignements oraux, et ça a donné le Talmud, soit avec deux vagues successives. Ça veut dire que dans les écrits qu'on a, il y a trace de balancement, d'opposition, de comparaison qui aide à la mémoire.
Alors, exemple ?
Eh bien, par exemple, on a le grain de blé tombé en terre. S'il ne meurt pas, reste seul. Et ça peut se mettre en balancement, mais s'il meurt, qui correspond à s'il ne meurt pas, porte beaucoup de fruits, qui est en opposition avec reste seul. Vous voyez, ce sont des structures orales faites de petites cellules de sens et de rythme pour que la parole soit portable.
Mais c'est un découpage que vous faites des écritures, ou c'est qu'à l'intérieur des écritures, il y a comme cette musicalité, en fait, ou cette manière de... cette respiration?
Alors, on essaye de la retrouver, mais elle est tout à fait présente. Quand on voit, il y a toute une organisation avec des mots accroches qui passent d'un passage à l'autre, ou bien, par exemple, des refrains qui reviennent. Par exemple, dans l'évangile de Zachée, on a « Aujourd'hui, il me faut demeurer chez toi ». Jésus dit ça à Zachée. Et une fois chez Zachée. Merci. Il va lui dire « Aujourd'hui, le salut est là dans cette maison ». Vous voyez ? Et donc, ces deux formules nous font dire que Jésus se déclare comme le salut, parce qu'il est présent dans cette maison. Vous voyez ? Et donc, il y a une exégèse qui n'est pas bâtie sur les mots, mais qui est bâtie sur ces gestes, sur ces cellules qui sont des gestes propositionnels. Voilà. Et la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose, une suite de concepts, ce n'est pas un discours de sagesse ou un discours philosophique, mais ce sont des actes de salut.
Alors, est-ce que vous pouvez trouver à nous donner justement quelques illustrations, parce qu'on peut se dire que c'est juste une méthodologie, c'est-à-dire que certains ont trouvé une manière de mémoriser un peu mieux l'écriture, ou ils ont trouvé, oui, leur méthode. En quoi c'est plus qu'une méthodologie ? Est-ce que vous pouvez nous trouver un ou deux exemples qui puissent illustrer cela ? Autre que ça.
Alors, je peux vous donner un exemple où on voit comment la parole de Dieu rejoint l'expérience humaine, la parole qui est geste, rejoint l'expérience humaine, et qui donne un savoir. Nous étions en train de travailler la brebis perdue. Et on a cette phrase, « Quand un homme parmi vous possède 100 brebis et perd l'une d'elles, que fait-il ?» Et on a ce geste un peu d'impuissance, hein, « Que fait-il ?» Voilà, cette interrogation, c'est un peu cette frustration, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Et ensuite on se met en petit groupe pour réfléchir sur cette parole, et il y avait une femme au bout de la table, là, une dame d'origine yéniche, d'Alsace, qui avait les bras croisés, qui était très très imposante, et qui ne disait rien. Donc pendant toute la réunion, elle n'a pas dit un mot. Plusieurs fois j'avais tenté de lui dire « Mais vous madame, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette parabole ?» Et elle ne disait rien. Et à la fin de la réunion, de la rencontre, je lui dis « Mais maintenant madame, vous avez quelque chose à dire ?» Et elle dit « Dieu, il est affolé. » Alors, on note, parce qu'on note beaucoup ce que les paroles disent, ce que les personnes disent. Moi, je n'ai jamais entendu dire ça. Un Dieu affolé, voilà. Cette femme le disait, et je lui dis, mais pourquoi vous dites ça ? Et elle reprend, Dieu, il est affolé parce que quand quelqu'un se perd, comme une maman qui perd un enfant. Et moi, j'ai perdu un enfant à 8 ans et un autre à 9 ans, dans mes bras, hein, de misère. En Alsace, elle vivait sous tente. Et ça veut dire que, vous voyez, le geste qu'on fait d'impuissance, que fait-il cet homme qui perd une brebis ? Elle, dans son expérience, ça a rejoint sa propre expérience gestuelle, et son expérience de vie, et donc elle a pu parler sur Dieu. Vous voyez, en réalité, l'évangile, ça nous permet de nous expliquer à nous-mêmes, ça a permis à cette femme en tous les cas, de se rappeler de ce drame de la mort de cet enfant et pouvoir dire que Dieu, en réalité, connaissait cela. Vous voyez ? Et donc, c'est le geste, c'est la mélodie, c'est ce découpage qui permet...
Alors, la mélodie, juste que vous parlez depuis tout à l'heure de mélodie, c'est-à-dire, en fait, souvent, c'est un peu chanté, c'est ça ou...
C'est chanté. Alors, c'est pas...
Mais allez-y, ne soyez pas timide.
Non, mais c'est entre le chant choral, mais qui serait trop compliqué, et les psalmodies des psaumes, qui seraient trop monotones.
Oui, c'est... Et ça donnerait quoi?
Alors, ça donne... Aujourd'hui, le salut est là dans cette maison. Aujourd'hui, il faut que je vienne dans ta maison. Oui, les deux phrases que j'avais citées tout à l'heure, en réalité, c'est les mêmes phrases pour qu'on puisse faire des jonctions spirituelles et théologiques.
Alors peut-être avant que vous nous donniez d'autres illustrations, quelle est vous qui en avez l'expérience aussi, la vertu justement de passer par la voix. Alors évidemment quand on parle, on passe par la voix, mais par le chant, pardon, et par le corps. Est-ce que, là vous pourriez peut-être parler plus à titre personnel, est-ce que, prendre des exemples de passages, est-ce que, je sais pas, ça aide justement à prendre conscience que la parole s'est incarnée, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est beaucoup de dire ça, mais...
Non, non, c'est pas beaucoup, c'est tout à fait juste. En fait, parce que Dieu s'est incarné en Christ et qu'il a pris un corps, c'est par notre corps que nous pouvons le rejoindre. Vous voyez, ça va très très loin. Dans l'évangile de Luc au chapitre 8, on a la famille de Jésus. Ma mère, mes frères qui veulent le voir, ils ne peuvent pas à cause de la foule. Et Jésus se retourne vers ceux qui l'écoutent et disent « Ma mère, mes frères sont ceux qui entendent et qui font la parole. » Donc c'est les frères, ça va, mais on est un petit peu abasourdi par ce mystère de mettre au monde Jésus. Devenir mère de Jésus parce qu'on entend et qu'on fait la parole, enfin, c'est un peu fort quand même. Et Maurice Zindel, il dit en fait... Tout...
Mais souvent, on comprend cette parole comme une manière de nous inciter à passer, on va dire, de la pensée aux actes. Voilà, de passer de la méditation de la parole à l'action de la charité. Mais là, c'est différent. Là, c'est presque comme la ressentir un peu ou la...
Tout à fait. Non, mais je finis avec Zindel parce que c'est très important.
Zindel, il faut peut-être dire qui c'est. Donc, c'est un prêtre suisse, mystique, voilà. du siècle dernier.
Et il disait, en fait, chaque être, chaque croyant, c'est un berceau pour le Christ. Ça veut dire que la manière dont on va recevoir la parole de Dieu d'une manière gestuée dans notre corps, ça fait advenir Christ et ça constitue le corps du Christ. Et après, ça nous engage au service de nos frères. Ça, y a pas de... Mais c'est une expérience corporelle, affective, intellectuelle de la parole. Et c'est une réception globale pour que cette parole soit entendue et faite. Et on a un très beau geste du disciple. Voilà, on a une main qui part du haut, qui descend dans les oreilles, qui passe par la bouche parce qu'on répète la parole, et qui descend dans le cœur. Et une fois que la parole...
C'est-à-dire
Dieu,
on a, c'est-à-dire que vous avez l'habitude d'avoir cette gestuation, c'est ça?
Voilà, ce geste des mains... De la main qui vient du haut, qui passe par les oreilles, qui passe par la bouche, qui descend dans le cœur. Et une fois qu'on a nos mains sur notre cœur, eh bien, la parole peut être faite. Vous voyez ? Mais on ne peut pas faire la parole si on ne l'a pas reçue dans un cœur beau et bon, comme dit.
Voilà. En tout cas, il fait des gestes en même temps, Pierre Davienne, parce que je rappelle que c'est une radio. Et donc, on ne vous voit pas, sauf moi. Sébastien, vous aviez un commentaire ?
Non, par rapport à la parole et ce que vous disiez là, la parole et qui il y a la parole et puis il y a les actions. Je pense que la gestuation, ça permet de faire l'unité dans tout ça. Et on a tendance dans notre église à séparer la méditation, la prière, la rumination et puis l'action auprès des plus pauvres. Et je crois que la gestuation, ça permet de faire l'unité quelque part. Et de vivre avec nos muscles le fait que quand on est au service de nos frères, on est dans une méditation de la parole. Et quand on est dans une méditation de la parole, on est au service de nos frères parce que c'est une parole qui est agissante.
Vous aviez aussi, en préparant l'émission, vous me citiez quelques exemples qui peuvent illustrer ça. Entre autres, vous avez l'exemple d'une femme avec un geste un peu particulier. Si vous pouviez raconter cette histoire et essayer de la décrire pour ceux qui ne vous voient pas.
Il y a un texte, alors je me souviens plus c'est lequel, dans lequel on dit « Et Dieu chasse la haine et la violence ». Et lorsqu'on dit la haine, il y a un point, la main gauche qui part avec un point, et puis quand Dieu chasse, il y a la main droite qui prend le point et qui ramène le point vers soi-même, comme pour dire je chasse la... Ça, voilà, comme on donne un coup de poing, mais non, on le donne pas.
Pour arrêter la haine... et la violence. Donc c'est le psaume 8.
Voilà, voilà. Et donc en même temps, vous accompagnez ça donc, de ce geste que vous venez de décrire, le point qui va en avant et puis une main qui...
Oui, tout à fait. Et cette dame-là qui vivait vraiment des grosses galères et qui avait la haine, elle en parle. Elle dit ben moi, j'ai la haine. J'ai la haine. Et puis en parlant, c'était pas pendant une session de récitatif, hein, c'était dans une conversation normale. Et ben en disant j'ai la haine, elle fait le geste. Et donc finalement,
elle fait le geste d'avoir le poing en avant, comme
le
ça.
Le poing en avant, mais la main qui ramène le poing vers soi pour, comme dans l'évangile, Dieu chasse la haine. Donc quelque part, elle dit j'ai la haine, mais elle fait le lien avec le psaume 8 en disant Dieu chasse la haine. Et ben, c'est une clé de lecture qui permet de. Je pense qu'elle n'aurait pas eu si elle n'avait pas eu l'expérience des récitatifs.
Voilà, parce qu'il faut aussi préciser, Pierre Davin, que, enfin, vous l'avez dit un petit peu, hein, c'est que les personnes du quart monde, c'est en même temps aussi un peu leur génie propre, hein, c'est qu'elles ne conceptualisent pas autant que nous. Voilà,
oui, non, mais c'est sûr qu'il y a des... Et puis, il y en a beaucoup qui ont des difficultés pour la lecture et l'écriture. Et donc, quand on mémorise de manière corporelle et gestuelle, il y a une intelligence qui se crée et qui naît avec des fulgurances théologiques et mystiques, en fait. On permet d'avoir une intelligence de la parole de Dieu qui est très, très belle.
Voilà, donc... Oui, pardon, Sébastien.
Ça fait une unité aussi parce que je crois qu'effectivement, les très pauvres, ils ont du mal à conceptualiser, ils ne savent pas lire et donc ils s'y retrouvent dans les récitatifs. Mais les intellectuels de la Bible, souvent, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'ils conceptualisent un peu trop et ils ont du mal à incarner la parole. Et dans les récitatifs, ils peuvent incarner la parole et finalement, riches et pauvres, on s'y retrouve, quoi.
Voilà, ils se reconnaîtront et du coup, ils viendront ce soir, donc à partir de 18h, à la salle paroissiale du Saint-Esprit pour cette initiation au récitatif biblique. Ça s'adresse à tout le monde, même aux gens un peu trop cérébraux, peut-être, ou surtout. On va faire une deuxième pause musicale et puis après, on va continuer cette émission à la découverte du quart monde, de ces récitatifs bibliques et puis de l'importance de la parole des pauvres dans l'Église. On en parle souvent à cette antenne, mais bon, c'est comme l'Évangile, il faut en parler, en reparler, peut-être pour finir par comprendre ce que ça veut dire.
Je me sens envahie par la joie qui grandit. Plaisance, à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission Vivante Église, le quart monde et la parole de Dieu. Donc, je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, avec Pierre Davienne, qui est diacre, membre du SAPEL, communauté chrétienne, avec des personnes du quart monde, Sébastien Combre, délégué du diocèse de Toulouse pour la diaconie et volontaire dans une autre communauté, comme ça, qui s'appelle Bonne Nouvelle. Et puis, il nous a rejoint en plateau Thibaut Dautuil, le nouveau directeur de Radio Présence, qui va, dans cette dernière partie d'émission, nous présenter une initiative particulière à l'occasion du carême, qui essaie justement de faire de la place à la parole des pauvres. La parole des pauvres, c'était un peu le thème donc, que je voulais aborder avec vous, puisque ce qui ressort, on sait que c'est, enfin, pour ceux qui vous entendent de temps en temps à l'antenne, Sébastien, c'est une attention que vous avez, et puis qui est en fait peut-être celle du père Joseph Wrzinski, c'est qu'à un moment, il faut cette parole des pauvres, il faut qu'elle soit audible. Il faut que tout le monde l'entende, en fait, entre guillemets, à un moment que tout le monde se taise pour les écouter. Le pape François, dès le début de son pontificat, a eu cette expression qu'on a entendue de multiples fois, demandant, appelant de ses voeux une église pauvre pour les pauvres. Alors, il ne s'agit pas de faire de l'exégèse de cette phrase, mais peut-être quand on n'a pas votre expérience, on peut avoir du mal à comprendre ce que ça signifie ou à se mettre en chemin. Vous qui avez peut-être un peu plus d'expérience dans ce domaine, Pierre Davienne, qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs comment vous comprenez cette phrase du pape François et comment vous, qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs pour nous aider à nous mettre en chemin?
Ce que je peux dire, c'est qu'il a dit cette phrase parce que lui, il a l'expérience de la misère. Et il a été aussi à la recherche de ce que portent les plus pauvres. Et on s'aperçoit...
Une expérience comme pasteur, parce qu'il n'a pas connu lui-même la misère.
Si. Oui, mais il a rencontré, on sent, pour dire une phrase comme ça, ça veut dire qu'il a rencontré des gens de la misère. Parce que quand on les rencontre en profondeur, on s'aperçoit que c'est un trésor pour l'ensemble de l'Église, des communautés chrétiennes et de l'humanité. Ça veut dire que quand il dit une Église pauvre, il n'y a pas d'autre solution. Hein, quand on fait des planchers, on dit, voilà, on se retrouve et il faut avoir tel ou tel moyen et qu'on laisse en dessous toute une partie de l'humanité, il est impossible de réunir tout le monde. Et si on met le plancher auprès et avec les plus fragiles, on est sûr de pouvoir faire un rassemblement qui soit authentique. C'est-à-dire, il y a une espèce de...
Donc c'est pas programmatique en fait, c'est presque une condition sine qua non de la vie de l'Église à vous entendre.
C'est une condition sine qua non. C'est-à-dire que si les pauvres sont pas là, c'est pas que c'est dommage pour les pauvres, c'est dommage pour l'Église. Aussi et surtout parce qu'elle se prive d'une expérience fondamentale, parce qu'eux seuls peuvent nous dire vraiment qu'est-ce que c'est que la foi, qu'est-ce que c'est Dieu, comment jusqu'où Jésus a été. Et c'est quoi cette croix qui est le lieu ultime de révélation? Parce que le pape dit aussi, ils connaissent la souffrance, ils connaissent le Christ souffrant, ils ont beaucoup à nous enseigner. Vous voyez, je crois que c'est pas jouer les pauvres contre les riches, mais si on est avec les pauvres, alors on pourra toujours rencontrer tout homme. Et donc c'est une condition. L'Église, c'est, le Père Joseph disait, l'Église, elle est condamnée à suivre un Messie crucifié et ressuscité. Mais il faut pas oublier le crucifié, quoi.
Alors on va creuser. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Hein. C'est vrai que l'image est très parlante hein, d'avoir le plancher au niveau des plus pauvres. C'est, oui. Vous entend. Hein, c'est et puis un plancher commun. En tout cas, c'est peut-être ce qui vous a motivé Thibaut Dautuil à peine arrivé pour cette initiative du Carême 2017. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être quelle est cette initiative et puis l'écho qu'elle va trouver qui sera à notre antenne et pas seulement.
Oui, bien sûr. Merci Emmanuel de m'avoir invité aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a souhaité modifier ainsi? Tous les matins à l'antenne, vous avez une lecture et un commentaire de l'évangile qui sont assurés par un prêtre. Et l'idée donc, c'est que pendant ce temps du carême, où on doit prêter une attention particulière au jeûne, à la prière et à l'aumône, on propose justement dans cette optique de regarder un peu mieux les personnes en précarité qui nous entourent, d'essayer de donner la parole aux personnes en précarité. Pourquoi est-ce que cette initiative, moi j'ai été marqué par deux actions particulières. J'ai travaillé pendant quelques temps en secours catholique, et Dominique Fontaine, l'aumônier général, dans le journal Message, qui est envoyé à tous les donateurs du secours catholique, a remplacé le commentaire de l'évangile qui était fait par un évêque, il l'a remplacé par des personnes en précarité. Moi, j'ai trouvé cette action super forte et je me suis dit, waouh, c'est donc vraiment qu'on a quelque chose à apprendre de la parole des personnes en précarité. Et l'autre chose, c'est, il y a quelques années, le pape François nous a donné une exhortation apostolique qui s'appelle Evangelii Gaudium et qui nous a rappelé, une phrase de Benoît XVI d'ailleurs, qui dit, les pauvres sont les destinataires privilégiés de l'évangile. Ça veut dire quoi, se privilégier ? Comment est-ce que nous, ça nous touche, nous qui écoutons la radio tous les jours, que les pauvres sont les destinataires privilégiés de l'évangile ? Comment est-ce que cette bonne nouvelle, elle vient percuter la vie des plus fragiles ? Qu'est-ce qu'ils ont à nous faire découvrir de cette parole incarnée, eux qui parfois sont meurtris jusqu'en dans leur chair ? Donc c'est ça, c'est cette idée que pendant le carême,
donc tous les matins, pendant le carême,
la lecture,
quand on sera dans sa voiture,
exactement,
on pourra entendre après le commentaire de l'évangile.
Voilà, par des groupes de pression de précarité, parce qu'il y a de nombreux groupes à Toulouse et dans les environs, qui travaillent comme ça, qui ont l'occasion de, un peu comme ce qui vous a été expliqué aujourd'hui avec le Sappel, ont cette intuition de faire vivre l'évangile avec les personnes en précarité. Et c'est à eux qu'on donne la parole.
Voilà, et ça ne sera pas diffusé seulement sur l'antenne de Radio Présence. Est-ce que vous pouvez dire peut-être déjà quelques-uns des partenariats ? Enfin, ça a intéressé d'autres
Justement, ça a aussi intéressé le Secours catholique, qui va donner un écho à cette initiative, à la fois sur leur site internet, et aussi sans doute, justement, dans leur journal aux donateurs, parce qu'on rejoint vraiment cette intuition d'accompagnement des personnes en précarité, d'être avec eux, de prier avec eux, qui est normalement celle qui devrait rejoindre toutes les paroisses, toutes les chrétiens. Voilà, ça nous touche, nous tous.
Voilà, en tout cas, on salue l'initiative et donc on écoutera ça avec attention dans notre voiture ou sous notre douche, cette belle initiative. Peut-être pour continuer à creuser pour le temps qui nous reste, cette thématique, qu'est-ce que vous diriez, je ne sais pas, l'un ou l'autre, Sébastien, Pierre Davienne, ou pourquoi pas vous aussi, hein, Thibault, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ont du mal à se mettre en chemin ? Voilà, on sait qu'il y a des prêtres qui nous écoutent, enfin, il n'y a pas que des prêtres qui doivent se mettre en chemin, hein, mais des laïcs qui sont engagés, etc. Parfois, on a l'impression que voilà, mettre le plancher de sa propre vie ou de sa vie paroissiale, au niveau des gens qui sont dans la misère, tout le monde ne vit pas depuis 20 ou 30 ans comme vous, en amitié avec des personnes du quart-monde. Parfois, on est aussi pris dans un rythme, dans une vie, et on ne fait pas pour autant mal. Qu'est-ce que vous donneriez comme clé pour essayer de me poser des pas, en fait, vers cette église pauvre pour les pauvres ? Pierre Davienne.
Peut-être qu'on peut se poser tout simplement la question, qui n'est pas là ? Quand on fait une réunion de paroissiale, peut-être commencer par prier, ce qui serait pas mal, et ensuite se dire, mais qui n'est pas là ? Et de qui je parle quand je prépare quelque chose au nom de la paroisse, au nom d'un diocèse ? Qui j'ai dans la tête et qui manque ? Vous voyez, parce que souvent on tourne sur nous-mêmes. Hein, les communautés, au fond, fonctionnent quand elles fonctionnent. Eh bien, on pense qu'on a fait le tour des gens et qu'on a fait le plein. Et c'est intéressant toujours de se dire, mais qui est-ce qui manque à l'appel ? Voilà.
Sébastien, qu'est-ce que vous diriez, vous ?
Moi, je crois que c'est fondamental ce que dit Pierre. Cette recherche de l'absent, de celui qui n'est pas encore là... effectivement, dans toutes nos organisations, on a tendance à vouloir remplir des cases avec les gens qui sont déjà là. On se plaint de ne pas avoir assez de personnes qui s'engagent. Et puis d'un autre côté, il y a des gens qui sont aux portes et qui attendent qu'une chose, c'est qu'on leur demande. Qu'on leur demande d'être présents, d'agir, de parler. On a eu une assemblée de la diaconie récemment et il y avait un débat, il y avait des gens qui étaient en précarité et qui discutaient avec des personnes qui étaient appelées, des diacres, des laïcs en mission. Et le discours était vraiment, était pas le même. Il y en a qui disaient, mais pour appeler, il faut oser. Il faut que l'on ose dire ce qu'on est capable de faire, que l'on ose aller vers les gens et dire ben, nous on veut être appelé, etc. Et ça, c'était les
personnes en précarité, oui, qui disaient ça,
qu'il fallait qu'elles osent, oui, parce que finalement elles n'étaient pas suffisamment appelées. Pourquoi? Et que
parce qu'on les appelait pas, elles, c'est
les,
ça,
oui, on les appelait pas, et qu'elles se disaient ben bon, peut-être que c'est de notre faute. Là, on parlait de la honte et de la culpabilisation. Les pauvres sont très souvent, ils disent pas c'est la faute des autres, ils pensent que c'est de leur faute. Et puis d'un autre côté, il y a un autre qui disait ben si on veut laisser de la place aux pauvres, à tout le monde, ben il faut moins en faire. Et ce discours, les deux ont raison, et se demander ben justement ben qui c'est qui en fait trop, mais pas qui en fait trop, justement qui n'en fait pas, à qui on demande pas, à qui on appelle pas, à part pour être quelque part sujet de notre attention.
Voilà, les appeler pour être acteur.
Pour être, oui, acteur.
Thibaut, pour finir,
rapidement, pour finir, effectivement,
un passage
parce que je n'ai pas l'expérience de vos deux autres invités, donc je m'appuierai encore sur une fois sur la parole du pape François. C'est merveilleux ce qu'il dit. L'Église a reconnu que l'exigence d'écouter le cri des pauvres vient de l'œuvre libératrice de la grâce elle-même en chacun de nous. Il ne s'agit donc pas d'une mission réservée seulement à quelques-uns.
Voilà, on finira par le mot de la fin, par ce mot de Thibaut d'Hauteville. En tout cas, merci beaucoup à nos invités. Du pape François, pardon, lu par Thibaut d'Hauteville. Merci beaucoup. On rappelle donc ce soir la formation qui commence, donc salle paroissiale du Saint-Esprit à Toulouse, sur ces récitatifs bibliques. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, eh ben, vous pouvez écouter cette émission, la réécouter, entre autres ce soir à 21h. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu aujourd'hui. Cette émission était donc réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez donc la réécouter à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.